Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo. Eh bien oui, nous sommes de retour de Los Angeles, frais et pimpant, ou presque. Vous allez voir, je suis contente parce que j'ai une nouvelle acolyte qui est aussi jet-lag que moi et ça me fait bien plaisir de l'accueillir. C'est Pauline de JVcom. Ça va Pauline?
Ça va très bien, tout aussi fraîche et pimpante, mais ravie d'être là.
Bah, heureusement, avec toi, quand même, on a Kassim qui est de retour et qui lui est frais.
Frais plus ou moins, moi j'étais de l'autre côté, j'étais à Taipei, mais...
Ah oui, Computex.
Bah, oui, tout
c'est
à fait, mais ça va, ça va.
On aura bientôt des trucs à raconter sur Computex. Et voilà, notre expert Xbox, parce qu'avec Pauline, nous avons eu la chance d'être au Summer Game Fest et de pouvoir voir de l'intérieur ce qui s'y passait, et notamment le Xbox Game Showcase. Et nous avons eu la surprise, comme tout le monde, de voir que c'était un peu panique à bord. Donc, on va vous faire part de nos analyses sur place. Et puis, voilà, Kassim, qui connaît Microsoft et Xbox sur le bout des doigts, il va décrypter ça aussi avec nous. Ce sont évidemment les deux gros temps forts de l'émission au niveau actu. Mais on a aussi quand même des jeux à vous raconter. On a pu mettre la main sur pas mal de jeux avec Pauline là-bas. Et on va vous dire ce qu'on en a pensé. En tout cas, voici le programme de l'actu à chaud de la semaine. Alors oui, on a une petite semaine de retard, on est un peu en décalé parce qu'il fallait qu'on se remette de tout ça. Mais nous étions à Los Angeles pour profiter du Summer Game Fest, conférence organisée par Geoff Keighley, qui a ouvert le bal des grosses conférences de la semaine. Je dis ça bien. Pauline, c'était ta première.
C'était ma première, donc bon, je vais être très subjective. Pour moi, l'engouement était assez palpable et d'autant plus que Geoff Keighley avait teasé le meilleur Summer Game Fest du siècle. Donc, à voir si on prend ça avec des pincettes avant de regarder.
Est-ce que tu l'as pris comme ça, toi ?
Non, généralement, j'écoute pas trop les teasings pour pas être déçue. Moi, j'ai été plutôt contente de la conférence dans son ensemble. J'ai trouvé qu'elle était plutôt éclectique, qu'elle proposait vraiment des choses pour tout le monde, ce qui n'était pas le cas forcément des années précédentes. Moi, j'en avais un peu ma claque des jeux d'action science-fiction dans l'espace.
C'est vrai qu'on a passé ça.
Ouais. Et là, cette année, bon, c'était plutôt kung-fu et jeux en Chine. Mais j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de choses pour les amoureux de jeux narratifs et d'horreur, notamment.
C'est vrai que c'était assez, pour une fois, c'est varié. Alors, vu de loin, est-ce que c'était pareil, Kassim ? Toi, qu'est-ce que tu retiens comme jeu ?
Non, mais c'est vrai que oui, pareil, c'était un peu la même chose, surtout que les années précédentes, Geoff, il nous avait habitués à nous donner surtout des nouvelles de jeux-service avec la saison 15 de tel et tel jeu.
Ouais.
Là, on avait vraiment plus des jeux solo, premium, je pense que c'est des choses qui nous intéressent plus, nous, autour de la table, là, des jeux consoles et tout ça. Et en jeu que j'ai retenu, bah, moi, c'était plutôt Resident Evil, Veronica, moi, que j'attendais, en tout cas, la suite des remakes de Resident Evil. Capcom, ils ont deux branches, on va dire, ils ont les Resident Evil canoniques, ouais. 7, 8, 9... Et ils ont les remakes des Resident Evil. Ils nous ont habitués aux remakes de Resident Evil 2, 3, puis 4. Et donc, on attendait la suite. Et ce n'est pas Resident Evil 5, mais presque, c'est Resident Evil V Veronica. Voilà, ils ont un peu
feinté. Mais ils ont dit, alors, on a pu discuter avec les producteurs et réalisateurs de Veronica. Et donc, ils ne veulent plus mettre de numéro. Et vous noterez que Requiem, c'est pareil, pas de numéro. Et là, on leur a dit, pourquoi est-ce que vous avez viré ? Parce que pour ceux qui l'ont fait il y a très très longtemps, c'était Resident Evil Code Veronica, donc avec Claire Redfield qui est un des personnages iconiques de la saga. Ils ont viré le code. Ils disent non, parce que maintenant on veut faire des titres simples avec un seul mot. Donc c'est vrai qu'on avait Village,
Requiem,
maintenant Veronica, il n'y aura plus de numéros.
Est-ce que c'est fini pour dire que chaque épisode est une porte d'entrée susceptible pour les nouveaux joueurs ?
Écoute, c'est une bonne analyse ça, j'aime bien l'idée. Mais je pense qu'il y a ça, je pense que c'est plus simple aussi. Pour s'en souvenir, parce que finalement, ils ont gardé ceux qui se suivaient en numéro. C'est vrai qu'à partir de Veronica, et ensuite, on part sur d'autres branches, sur d'autres personnages. Et donc, voilà, ce Veronica, eh bien, moi, qui m'a beaucoup plu, en version moderne, modernisée, même si on n'a rien compris du trailer au début, avec cette mamie française et son accent à couper au couteau.
Mais elle parle quand même parfaitement anglais, hein, ce qui est d'une fiction.
Elle a un anglais formidable.
Oui, ça n'arrive à personne en France.
Ça t'a plu, toi, ça ou pas ?
J'ai trouvé ça super en ouverture. Moi, Veronica, c'est un peu le remake que me conseillent tous les grands connaisseurs de Resident Evil. Et moi, j'ai commencé un marathon il n'y a pas si longtemps. Donc, s'il y avait un remake annoncé, je pense que c'était celui-là et j'ai quand même très hâte de le faire, moi.
Bon, alors, Kassim, c'était une semi-surprise, hein, Veronica, parce qu'on savait qu'il était dans les tuyaux depuis longtemps. Mmh. Pourquoi celui-ci, il est si particulier ?
Bah, c'est le dernier. En fait, s'il est si particulier, c'est parce que c'est le dernier de la saga originelle, on va dire. À l'origine, Resident Evil 1, 2, 3 sur PlayStation 1, c'était des jeux où on contrôlait un personnage à la troisième personne de loin avec des plans fixes. C'était vraiment un gameplay un peu dans son époque. Et Code Veronica, c'est celui qui ferme ce cycle-là avant le Resident Evil 4 qui va redéfinir le jeu d'action avec Léon en mode super agent secret, super baraque. Là, on est encore au contrôle d'un personnage qui est un peu entraîné aux armes à feu. On n'est pas dans Silent Hill non plus, mais qui n'est pas non plus une sorte de super soldat hyper entraîné. Et donc, c'est un peu ce dernier épisode qui clôture cette série. Et donc, forcément, là, avec le remake, on termine la boucle un peu de modernisation des Resident Evil. Peut-être un jour, on aura un remake du tout premier Resident Evil qui avait été le tout premier à avoir le droit à un remake, mais qui n'avait pas eu le droit au remake dans la version
dans la
caméra
nouvelle...
derrière l'épaule, etc. Donc, peut-être qu'on y reviendra. Mais en tout cas, là, normalement, ils sont à jour, quoi, maintenant, Capcom.
Mais alors, ce qui est très drôle, c'est que tout le trailer est en vue à la première personne. Et alors que nous, quand on a discuté avec eux, ils nous ont dit non, le jeu sera à la troisième personne. Donc, je n'ai pas tout compris. Est-ce qu'ils vont laisser, comme dans Requiem, le choix de ce qui serait assez nouveau, parce que c'est vrai que c'était beaucoup d'épisodes en vue à la troisième personne. Et c'est le seul truc qui m'a fait étonner, c'est que sur le trailer, vu... alors moi, je n'aime pas la vue à la première personne, parce que je suis un peu flippette. Et je n'aime pas ça. Mmh. J'avais une énorme pensée pour Carole Quintaine, qui a dû être hystérique, même si je pense qu'elle était tout à fait au courant que ça arrivait, qui est une énorme fan de Resident Evil. Un jeu, toi, Pauline ?
Un jeu du Summer Game Fest ?
Ouais.
Oh là là,
parce que je sais que t'en as fait un aussi où tu t'es fait peur un peu, qui était un peu stressant, qui moi me stresse à mort.
Est-ce qu'on parle d'Alien Isolation 2
qui avait été teasé avant par Sega disant ouais, ça revient. Ouais, ouais. Moi, le premier, j'avais autant adoré que je les avais détestés tellement c'est, j'avais flippé.
Ça m'étonne pas. C'est le genre de jeu un peu comme Outlast où il faut tout le temps rester caché, tout le temps dans la peur en fait. T'es jamais tranquille, jamais serein, toujours très vulnérable. Et là, j'ai joué dans une salle, déjà la salle obscure, pas de lumière. Ils nous ont mis une caméra devant le visage pour qu'on voit bien nos réactions pendant qu'on joue au jeu. On a joué une quinzaine de minutes. La particularité de cet épisode, c'est qu'il se passe à moitié en extérieur. Donc, la moitié du temps, vous allez être dans une carcasse de vaisseau à craindre pour votre vie parce qu'il y a le xénomorphe qui passe dans les couloirs et vous devez rester caché. Et quand vous atteignez l'extérieur, eh bien, vous êtes vulnérable et il y a la météo qui va jouer un rôle sur le gameplay. Et par exemple, s'il pleut, eh bien, vous n'allez plus entendre le xénomorphe approcher et ça va créer toutes d'autres sortes de situations très dangereuses. Pour l'instant, je suis restée à l'intérieur du vaisseau. Donc, j'ai pas pu sortir. Enfin, j'ai pas vu ce qui se passait à l'extérieur. Donc, c'est ni plus ni moins le 1 auquel j'ai joué. Mais c'est exceptionnel comme jeu.
C'est ta cam, ça, Kassim ?
Alors, j'ai pas fait le 1 et je crois que je ne toucherai pas au 2. J'aime bien les jeux d'horreur, mais il y a peut-être une limite. Il y a une limite.
On parle souvent de ce jeu comme la limite.
Hein. Ouais, alors, j'avoue que ce qui est terrible. Enfin, si tu dois le refaire. Le jeu a 10 ans, un peu plus de 10 ans, le premier.
12 ans.
Et honnêtement, il se tient encore hyper bien. Visuellement, il était déjà magnifique à l'époque. Il est d'un truc angoissant, parce qu'il ne faut jamais, évidemment, jamais affronter le xénomorphe, c'est comme dans le film. Et il est tout le temps là, et on l'entend respirer,
et
on sent sa présence. On ne peut pas le tuer. D'ailleurs, dans le premier, il y a quelque chose qui était très bien fait, c'est que souvent, on savait qu'il était là, mais on ne le voyait pas forcément. J'ai l'impression que dans le deuxième, on va le voir un peu plus, mais le but du jeu, c'est de se barrer. Et d'essayer de sortir. La perspective de l'extérieur ne me plaît pas du tout, mais je trouve ça pourtant moins angoissant que l'intérieur.
C'est vrai, je ne sais pas trop ce qui nous attend. Et l'autre particularité, c'est qu'il n'y a pas de sauvegarde automatique. On doit aussi trouver les bornes d'appel téléphonique pour sauvegarder, ce qui rajoute une bonne dose de stress.
Trop de stress pour moi, ce jeu, c'est clair. Autre jeu de Sega, moi j'ai pu y jouer à celui-là, c'est Strangers in Heaven, qui est un jeu que j'attends beaucoup. De Sega qui est le... Alors, je vais dire RGG parce que j'arrive jamais à prononcer correctement le nom du studio, je m'en excuse. Et pourtant, j'ai fait l'interview avec leur patron, mais je n'arrive pas et je ne veux pas écorcher le nom.
Développeurs de Yakuza.
Les développeurs de Like a Dragon Yakuza qui sortent complètement de leur univers. Alors oui, on va nous dire que ça se passe au Japon. Ça se passe au Japon début 20e. C'est 50 ans de la vie d'un personnage entre 1915 et 1965. Et c'est intéressant parce que je lui ai demandé pourquoi avoir choisi cette période ? Pourquoi Japon ? Et il dit c'est en fait c'est une période du Japon où le pays était extrêmement fermé et complètement fermé sur lui-même, donc pas du tout ouvert sur l'extérieur. Et ce personnage, Makoto, qui revient, est en fait, comment on va dire, japono-américain, américano-japonais, comme vous voulez. Et il se retrouve un peu orphelin et donc il rentre au pays. Et c'est le principe de tous ces gens qui sont métis, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, il est japonais et au Japon, il est américain. Donc, il cherche sa place dans le monde. Et on l'a on lui a collé des personnages haut en couleur et donc on avait Snoop Dogg qui était nous quand même à la conférence.
Improbable.
Comme vraiment un ovni sur scène. Et donc le retour de Tupac Shakur qui est quand même décédé depuis 30 ans, qu'ils ont utilisé sans utiliser d'IA. Et ça, je trouve ça canon quand même à signaler. Ils ont obtenu les droits de le faire s'ils n'utilisaient pas d'IA. Donc ce sont des images d'archives qui ont servi pour le modéliser et pour refaire sa voix et tout. Donc j'attends de voir le résultat. Parce que moi, sur la séquence que j'ai jouée, j'ai fait des séquences de baston qui seront énormément au cœur du jeu. On n'a pas vu ni Snoop, ni Tupac. Les adeptes des jeux de baston, vous allez vous marrer. Mais alors, pour prendre en main les contrôles, il faut vraiment, comment dire, splitter son cerveau. C'est-à-dire que chaque moitié de la manette est votre main gauche ou votre main droite. Donc, il faut savoir se servir de l'une ou l'autre. C'est-à-dire, on n'appuie pas sur des boutons avec des gestes qui sont préfaits. Il y a une mécanique à prendre en main. Ils sont très, très fiers de ça. Parce qu'à l'origine, le producteur de jeu et donc scénariste avait réfléchi à faire un jeu de boxe ultime. Et donc, il a gardé cette espèce de mécanique qu'il a documentée pour ça. Le jeu est magnifique. Moi, j'aime beaucoup l'ambiance. J'aime beaucoup cette idée. Alors, voilà, il faut bastonner. Hein. Donc, après, vous pouvez bastonner à la masse ou au couteau si vous êtes un peu plus radicaux. Il y a quelque chose. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose dans ce jeu un peu à part. C'est pas Yakuza. C'est beaucoup plus sombre. Yakuza, il y a toujours un moment où ça part en sucette. Moi, j'aime beaucoup ça. Mais là, c'est pas du tout le même délire. Et donc, ouais, Strangers in Heaven pour janvier, 15 janvier l'année prochaine. Moi, j'attends de voir vraiment, d'en savoir un peu plus, mais ce jeu me botte vraiment. Vous aussi ou pas ?
Plutôt, ouais, même si j'aurais peut-être laissé Tupac tranquille se reposer.
Ouais, à voir. Alors, il est censé faire l'ami de Snoop Dogg, qui est un passeur, en gros, qui lui... Alors déjà, Snoop Dogg au Japon, en version hip-hop, j'attends de voir au début du 20e. Et donc, qui est un passeur d'étrangers dans le pays, qui fait rentrer. Et il voulait lui coller quelqu'un qui était un vrai ami à lui dans la vie. Et Snoop, apparemment... a suggéré l'idée de prendre Tupac Shakur. Donc, assez étonnant.
Improbable.
Improbable, complètement improbable. Donc voilà, Strangers in Heaven. Et alors, un dernier jeu dont on est obligé de parler aussi, qui clôturait le Summer Game Fest. Geoff avait dit, ça va être génial, vous allez voir, je vais vous faire un truc d'enfer. Je suis très fière d'avoir trouvé ce que c'était. Et c'était Final Fantasy VII Révélation. Alors là, évidemment, évidemment, dès que Final Fantasy, on prononce le mot, Kassim.
Oui.
Les yeux brillent. Kassim a les yeux qui brillent. Alors.
Bah, écoute, c'est la clôture de la trilogie qui a quand même commencé il y a une dizaine d'années avec Final Fantasy VII Remake. Et donc, enfin, on a eu Final Fantasy VII Remake, on a eu Final Fantasy VII Rebirth. Et donc là, on aura Final Fantasy VII Révélation l'an prochain. Et ce que je trouve fou, c'est à quel point ce jeu synthétise un peu tout de notre époque en termes d'industrie du jeu vidéo, puisque c'est à la fois, bon déjà c'est un remake, mais qui n'est pas totalement un remake, qui se veut aussi être une sorte de nouvel épisode dans la franchise, en tout cas de ramener aussi les nouveaux joueurs. Et surtout, bah, 3 jeux sur 10 ans pour un triple A, avec autant de budget, autant de développement, etc. C'est très ambitieux et ils sont en train de le tenir. Et comment ils le tiennent ? Ils le tiennent en... réussissant à garder la même équipe de développement. C'est quelque chose comme 90% des développeurs sur ce Final Fantasy VII Révélation étaient déjà sur le Final Fantasy VII Remake et qu'ils gardent les mêmes assets, ils gardent le même moteur et ils gardent les mêmes équipes de développement qui ont l'habitude de travailler ensemble. Et donc, ça déroule et ça permet de faire 3 jeux ambitieux en l'espace de 10 ans et de clôturer ce qui est un des remakes qui étaient les plus attendus. Enfin, on a demandé à Square Enix pendant des années et des années, parce qu'ils avaient eu le malheur à l'époque de la présentation de la PlayStation 3, de faire une démo technique de Final Fantasy VII avec les graphismes de la PlayStation 3. Et dès lors, c'était juste une démo technique, mais dès lors, les fans ont exigé de Square Enix de développer un Final Fantasy VII Remake. Et ils ont fini par craquer. C'était en 2015, l'annonce de Final Fantasy VII Remake.
C'est 2015, je me souviens, j'y étais.
À l'E3 de PlayStation.
Ouais, à l'E3 de PlayStation. Cette très très grosse conférence où ça a été l'hystérie totale dans la salle.
Et Shenmue 3 dans la
salle. Exactement, la même. Avec, souvenons-nous, quand même, moi ce qui m'avait frappé, j'étais dans la salle. On est quand même dans une conférence qui doit coûter quelques millions à l'époque à organiser. Et on nous lance pour Shenmue 3 quand même.
Kickstarter.
Et on s'est tous regardés dans la salle. Est-ce que c'est vraiment l'endroit pour faire ça? On est dans une conférence qui coûte 2 millions et on nous dit, ce serait gentil, à votre bon cœur, pour faire un Shenmue 3. Et ce qui est délirant, c'est qu'avant la fin de la conf, je crois qu'ils avaient déjà 1 million en banque ou un truc comme ça. Enfin, sur le Kickstarter, c'était lunaire. Donc, 3 jeux en un quand même.
Trois jeux en un. Le dernier épisode, du coup, que va faire aussi, moi la question forcément que je me suis posée immédiatement, c'est qu'est-ce que va faire l'équipe de développement une fois qu'elle aura terminé justement ce Final Fantasy VII Révélation, parce que c'est tout un pan de Square Enix. Est-ce qu'ils vont se mettre au travail sur un Final Fantasy XVII, ou encore ou d'autres remakes, etc. On verra bien. En tout cas, c'est quelque chose qui est ultra ambitieux. Et il faut noter qu'il sortira du coup au printemps 2027 sur toutes les plateformes.
En même temps.
En même temps, exactement. Alors que jusqu'à présent, les Final Fantasy VII, c'était des exclusivités temporaires PlayStation. Là aussi, ça a dit quelque chose de la relation entre Square Enix et Sony. On sait que le début de la PlayStation 5 avec Final Fantasy XVI et Final Fantasy VII Remake exclusif aux consoles PlayStation, ça ne s'était pas très bien passé en termes de vente. Et Square Enix, ils sont plutôt allés vers du multiplateforme à partir de maintenant.
Ouais. Bon, voilà, et puis Phil Spencer avait très bien joué la carte aussi de séduction des éditeurs japonais. Bah, toi, tu le sais parce que tu étais à cette conférence Final Fantasy où il est arrivé sur scène pour dire c'est super, on va mettre tous les Final Fantasy sur Xbox. Bon, voilà, Phil est parti, mais les Final Fantasy restent. À titre perso, j'ai quand même quelque chose qui me fait plaisir. Au-delà d'avoir trouvé le nom, en fait, de savoir que c'était Final Fantasy VII, et j'avais zéro tips, je vous le dis, c'est que j'avais dit à Magouchi, quand je l'ai vu rencontrer l'année dernière à Paris Games Week, on parlait justement de Final Fantasy, et je lui ai dit, bon, quand est-ce qu'on aura le nom du 3? Et je lui avais sorti une liste de 3 noms à la noix, pour dire gentiment. C'était re, c'était sûr, donc je ne sais plus. Et j'avais mis Révélation dessus.
Oui, bah.
Et voilà. Et il avait. J'avais mis Requiem aussi, parce que c'était aussi dans le délire. Et il s'était marré en me disant non, je ne peux pas vous dire. Mais j'étais contente dans ma liste pourrie d'avoir mis Révélation.
Révélation, c'est quand même le nom quand tu ne sais pas trop quoi donner comme nom à
ton
jeu.
On est un peu d'accord.
Il y a eu Assassin's Creed. Alors moi, on en parlera après, mais il y a quand même le Doom Dark Ages Révélation. En termes de nom improbable.
Il restait Révélation, Requiem, Reimagination, Récréation. On y avait pensé, mais oui, ça sonnait moins bien comme fin.
C'est vrai qu'il n'y avait pas tellement d'options. Hein.
Yeah, non, c'était un peu... C'était, à partir du moment où ils étaient dans leur re, c'était, oui, c'était limité en jeu vidéo. Est-ce qu'il y a un autre jeu qui vous a marqué sur cette conférence?
Que le Summer Game Fest ou
on va pas se circuler sur le Xbox Game Showcase, mais sur celui-ci déjà.
Eh bien, il y avait bien le petit Devils, Magicians...
C'est Xbox, on va en parler, c'était toi et moi, on a été... envoûté par ce jeu.
Oui.
On ne sait plus où le placer, mais ouais, on va en parler. C'était sur l'autre conférence, celui-ci.
Oh là là.
Ça, c'était bien. Non, toi, de toute façon, une fois qu'il y avait Final Fantasy, on que la conférence était terminée, il ne se souvient plus rien, Cassine. Mais bon, mais en effet, l'autre grande conférence du week-end, alors il y a plein de petites conférences autour, c'était le Xbox Showcase. Évidemment, après le State of Play PlayStation en début de semaine, qui était quand même costaud, le Summer Game Fest, qui était loin d'être décevant pour une fois. J'étais contente d'être dans la salle, parce que souvent, on s'ennuie un peu. On attendait beaucoup de Xbox. Et là, on n'a quand même pas été déçus, Pauline.
Non, mais je trouve que c'était une ambiance différente des autres années. Moi, quand j'assiste au showcase Xbox, j'attends toujours mes petits indés, mes petites révélations du moment. Mes petites perles rares qui vont pop. Et là, j'ai bien compris que ce n'était pas vraiment la stratégie de l'année. On avait plutôt une conférence...
un peu plus de testostérone.
Testostérone, plutôt bien masculine, bien américaine, avec du Gears d'entrée de jeu dans des environnements urbains très sexy. Franchement, ça avait une bonne tête, mais du coup moins de pépites pour mon profil de joueuse, mais j'ai repéré quand même quelques trucs très sympas, notamment un petit revival de Spyro, un petit jeu à la BioShock qui est donc
Devil's Deal,
le magicien, mais le deal du diable, mais qui a un BioShock en enfer.
Ouais,
globalement,
c'est moi j'aime bien ce côté magicien, le baston de magicien là, ça me plaît bien. C'est vrai qu'on a eu ce côté très déjà d'entrée de jeu, Gears of War, idée,
oui.
Qui nous envoyait du pâté alors qu'ils avaient 40 minutes derrière de conf pour nous annoncer de l'exclusivité. Et ça, c'est quand même, on en reparlera, mais c'est quand même un virage assez intéressant. Clockwork Revolution qui faisait la boucle derrière. Et au milieu, c'est vrai, des petits jeux comme ça. Gears, Halo, on en parlera, on va en parler parce que c'est aussi un peu la folie des remakes. Ça fait quand même des jeux, ils sont un peu en retour. Call of Duty, évidemment, Modern Warfare 4, on ne pouvait pas y passer à côté, mais il avait déjà... Ils ont annoncé quand même pendant la conf, Kassim, qu'il revenait un peu à des fondamentaux.
Oui, c'est la grande promesse. Parce qu'en fait, on ne l'a presque pas dit, mais c'est la première conférence Xbox Game Showcase depuis sous l'ère Asha Sharma, donc depuis que Phil Spencer, l'ancien patron de Xbox, a quitté Microsoft. Du coup, il y avait beaucoup d'enjeux déjà, même de savoir si elle allait être présente, etc. Est-ce qu'elle allait se mettre en avant et tout ça, comme le faisait beaucoup Phil Spencer. Et donc, la nouvelle présidente, elle avait promis un reboot et un retour aux sources pour Xbox. Et c'est toujours difficile un peu de savoir ce genre de conférence, comme elle est arrivée en fonction qu'il y a finalement très peu de temps à l'échelle d'une entreprise comme ça. C'est toujours un peu difficile de savoir à quel point cette conférence, elle avait été déjà dessinée, on va dire, par Phil Spencer, ou à quel point elle a vraiment décidé de chaque jeu, chaque présent de chaque bande d'annonce.
Alors, pour te donner un bout de réponse, moi j'ai discuté avec Matt Booty, j'ai eu en interview, lui m'a dit ça fait 7 mois qu'on travaille sur cette conférence. Cette conférence a donc été commencée et prévue sous Phil Spencer et Sarah Bond. Donc c'est vrai qu'elle, qui est arrivée au mois de février, est-ce qu'elle a mis la main tout de suite sur la conférence pour dire on fait le ménage ? En fait, je trouve qu'on ne sait pas dans quelle mesure le boxon était prévu d'entrée de jeu chez Xbox ou pas.
Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, la conférence qu'on nous a présentée s'aligne avec elle, sa promesse d'un retour aux sources et en gros un trip nostalgique. On a quand même eu dans la même conférence, effectivement, Gears, Halo, Fable et des franchises, alors qui autrefois étaient plutôt multiplateformes, mais qui quand même sont très joueurs américains, adolescents, masculins.
On l'entendait dans la salle. Hein. On l'entendait dans la salle, ils étaient quand même assez gros, hystériques.
Yeah. Avec du Call of Duty, du
avec
Doom.
Avec du sang partout.
Beaucoup de jeux violents, soit FPS, soit à la troisième personne. Peu de pépites indé, alors que le Xbox de Phil Spencer, c'était plutôt un Xbox qui se voulait très divers, très sur tout type d'expérience de jeu. Là, on revient vraiment aux sources, jusqu'à cette publicité pour une Xbox édition 25 ans, avec vraiment, littéralement, la chambre d'un adolescent des années 2000, pour vous dire, regardez, vous vous souvenez à l'époque comment c'était trop bien. Et donc oui, voilà, un Xbox qui revient à une forme de violence et à une forme de clientèle masculine, c'est aussi quelque chose qui s'inscrit culturellement en ce moment dans l'ère des États-Unis, on va dire, à l'ère de Donald Trump. C'est un Microsoft qui essaye de revenir à un ADN très américain. Voilà.
Ouais, c'est ça. Alors, tu parles des chambres. Nous, on a vu le FanFest avec Pauline là-bas. Ils avaient mis en fait en bas pour le FanFest, ils avaient recréé des chambres par époque pour mettre en avant des jeux récents ou des anciennes consoles. Et c'était ces chambres d'ado. Ils sont vraiment repartis. Et ils l'ont annoncé, c'est le retour aux sources. Heureusement, il n'y avait pas que de la testostérone toutes les 3 minutes, ce qui était bien. Nous avons vu Fable.
C'est vrai.
Et nous avons même eu un aperçu un peu plus poussé de Fable.
Oui.
Est-ce qu'on attend Fable alors encore plus, Pauline ?
On attend énormément Fable, même s'il n'y a pas de VF. Bien sûr, c'est le gros drama.
Ça, gros débat chez Xbox depuis quelques mois, la VF et la localisation. Nous avons ce sujet sur la localisation avec Kassim depuis des années. Les problèmes de localisation dans les textes et désormais dans les voix chez Xbox.
Et pour autant, on n'a pas vu la quête principale, on a vu le jeu dans le jeu, comme ils aiment bien l'appeler, vraiment le côté simulation de vie dans le jeu. Donc on débarque vraiment à cheval dans une...
C'est un peu les Sims, quand même, dans Fable.
Luxuriante, ouais, quand même, en un peu plus sympa. Les Sims, on crée le personnage et au bout d'une minute, on quitte déjà le jeu. Là, quand même, on va pouvoir draguer, se marier, faire des enfants, acheter n'importe quel commerce en cliquant sur la devanture d'une maison. On va pouvoir faire tellement de choses.
Virer les gens de chez eux pour prendre leur maison, n'oublie pas.
Oui, aussi. Mais attention à la réputation donc, qui peut changer d'une personne à l'autre et d'un endroit à l'autre. Et à la fin de la démo, il s'était bien amusé à vraiment tirer sur tout le monde et à fuir l'endroit où on était. Et il paraît que à certains endroits, ils peuvent apprécier qu'on soit un peu criminel, à d'autres non. Et vraiment, il va falloir faire attention à ce système de relations.
Nous avons sauvé un porc qui parlait aussi, sachez-le. Non, on a vu vraiment, c'est vrai qu'ils ne nous ont pas du tout montré l'histoire principale donc dans Albion, ce personnage. Là, on est parti vraiment dans un délire total d'une expérience à côté qui, à mon avis, va nous prendre un temps de malade qui consiste à vraiment s'arrêter dans un village et faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que les 1000 PNJ vraiment indépendants qu'on nous a promis, là, on en a quand même vu une partie où tu t'arrêtes, tu leur parles. Si tu as envie de leur pourrir la vie, tu leur pourris la vie. Si tu as envie d'avoir des interactions avec... Donc, en effet, on est allé draguer la vendeuse de je ne sais quel magasin.
Qui était assez exigeante.
Qui était hyper exigeante dans le profil de ce qu'elle voulait qu'on soit. Donc, derrière, il faut remplir les cases pour madame. Pour après la demander en mariage et la planter 2 minutes plus tard. Et donc là, évidemment, elle nous en veut. Les gens nous en veulent parce qu'on n'a pas été sympa. Donc après, on a tiré sur des gens avec des arcs et des flèches parce que, ouais, parce que pourquoi pas, et on s'est barré parce qu'on avait une réputation pourrie. Voilà tout ce que vous pourrez faire dans Fab.
Et le jeu promet d'être très drôle avec un humour british.
On l'a senti après.
Avec le cochon.
En tout cas, alors Fable, c'est pour février l'année prochaine. Faudra un petit peu attendre.
C'est partie de ces jeux qui, bizarrement, ont choisi d'éviter le mois de novembre 2026.
Ouais, mais
pour
alors.
Une raison très étrange.
Ça, c'est un des trucs qu'on a vu pendant le Summer Game Fest et Xbox Showcase. Septembre, on va mourir sous la densité de jeux. Et à partir de janvier l'année prochaine et février, un peu mars, ça commence quand même à se remplir dangereusement.
En novembre, il y a GTA 6 qui sort. Juste pour
au cas où, pour ceux qui l'auraient oublié.
Et quand même, Barbie Rewind.
Et Barbie
qui a décidé d'être dans cette fenêtre de
ça. Barbie Rewind qui a décidé d'y aller frontalement parce que voilà, il n'y a que Barbie qui peut lutter contre GTA. Il y a aussi quelque chose qu'on note depuis très longtemps, depuis quelques mois, la folie des remakes. Donc, on en a parlé là un petit peu, Resident Evil qui revenait. On a vu Halo, ça on le savait, là qui revient. Alors moi, j'ai plus joué à Halo. Donc, j'avais joué au premier il y a 20 ans, trop longtemps. J'ai rejoué à l'autre avec un plaisir non dissimulé, je dois avouer, parce que j'aime beaucoup les ajouts qui ont été faits sur ce Halo que j'ai trouvé, par rapport à mon souvenir, beaucoup plus fluide. On peut piquer les véhicules, ça j'adore, je peux rouler sur les ennemis et ça m'a fait bien plaisir. Ou tirer. Et je trouve qu'ils ont été très très malins. Le studio qui est, c'est donc maintenant Halo,
oui, c'est vrai, c'est
Halo studio maintenant et plus 343 Industries. Là. Ils ont été très malins dans leur approche, c'est-à-dire qu'on reste vraiment dans le jeu d'origine qui est évidemment plus beau parce que c'est un remake, mais avec des nouvelles armes. Alors moi, je n'ai pas fait les Halo après, j'avoue, enfin très... vraiment par petits morceaux. Donc il y a des ajouts, des armes. Ceux qui ont joué au Halo suivant, vous reconnaîtrez des armes, vous reconnaîtrez deux, trois choses. Mais ils ont gardé vraiment, je trouve, la philosophie du premier, en tout cas le souvenir que j'en avais, avec des petits ajouts de sprint. On peut sprinter, et ça, c'est quand même pas négligeable. Et les véhicules qu'on peut voler, auxquels on peut monter et partir. Je trouvais ça très bien. Vraie tendance, remake. Est-ce qu'on en a marre des remakes ou pas, Pauline ?
Moi, je suis un peu de la jeune génération qui n'a pas toujours connu les jeux originaux. Donc, je suis très contente d'avoir des remakes à chaque fois. Pour moi, c'est excellent. J'ai découvert Silent Hill 2 avec le remake, par exemple. Mm-hmm. Donc, à partir du moment où ils sont bien faits, généreux et avec beaucoup de passion, ça me régale, moi.
Ah, ça, c'est...
J'avoue, je vais être un peu du même avis. Parce que moi, par exemple, dans ceux que je n'ai pas fait, il y a le Zelda Ocarina of Time qui a été annoncé lors d'une...
Avec une demi-image.
Avec une demi-image, tout à fait. Et qui sera peut-être un de ces jeux qui oseront peut-être la concurrence avec GTA 6. D'ailleurs, je mise un peu sur une sortie en novembre.
Ah ouais ?
Mais,
excellent.
Mais en tout cas, donc Ocarina of Time, jeu légendaire de la Nintendo 64. Jeu qui est toujours, à ce jour, le jeu le mieux noté de l'histoire du jeu vidéo sur Metacritic. Il est top 1. Et donc, il a eu le droit à l'annonce d'un remake à son Nintendo Direct. Effectivement, des remakes, il y en a beaucoup. Je trouve qu'on est revenu d'une époque où les remakes étaient un peu paresseux. Maintenant, Capcom et Square Enix ont quand même vachement montré la bonne façon de faire du remake, notamment avec la série Resident Evil. Et effectivement, Silent Hill était très réussi. Halo, il s'annonce quand même plutôt bien fait. On a eu aussi pas mal de petites tentatives. Je pense au Crash Bandicoot et au Spyro. On a parlé très rapidement de l'annonce du nouveau Spyro. Mais avant ça, il y avait eu des remakes. Tout ça, moi, je l'accueille plutôt de façon bienveillante parce qu'effectivement, on a de toute façon plein de jeux qui sortent. Mm. On a plein de jeux indépendants, on a plein de jeux à gros budget qui sont nouveaux. Faut pas résumer ça à « Oh, il n'y a plus que des remakes ». C'est faux, il y a quand même aussi des nouveaux jeux. Donc, moi, tant qu'il y a à la fois les nouveaux jeux pour les gens qui ont déjà connu les originaux et en même temps, il y a les remakes pour faire découvrir ces légendes du jeu vidéo à tout un nouveau panel de joueurs. Moi, je trouve ça plutôt positif. Au contraire, le jeu vidéo, malheureusement, c'est un art qui vieillit du fait de la technique.
Les consoles, surtout. On n'a plus forcément
les
consoles pour jouer. Alors, à une époque, Xbox faisait quand même de la rétrocompatibilité et ramener ses vieux jeux, c'était cool, mais ils ont un peu perdu le mojo là-dessus.
Et puis alors, du côté de Nintendo et PlayStation... Bon,
n'en parlons même pas, voilà. Il vaut mieux racheter les jeux à 70 balles. On a vu Rayman aussi, mais surtout, en parlant de remake, nous avons vu Tomb Raider, le retour de Lara Croft, le Legacy of Atlantis, qui faisait
alors,
son retour.
Celui-là...
Écoute, nous on y a joué, on va te raconter ça, mais on a aussi rencontré Alix Wilton-Regan, qui est la nouvelle Lara Croft. C'est un sacré personnage, vous allez voir, et en plus, en français dans le texte, parce qu'elle parle, c'est une Anglaise avec un Anglais. Avec un français impeccable. Écoutez-la.
C'est un personnage qui parle autant aux hommes qu'aux femmes, aux joueurs de jeux vidéo, à l'audience qui regarde les films, qui vont regarder la série de télé, patati patata. Premièrement, on est tous les deux Verseau. Je ne sais pas si la caméra voit ça, mais là, moi, je suis Verseau, le 26 janvier. Elle est le 14 février, jour du Saint-Valentin, bien sûr. On est tous les deux anglais. On est tous les deux à peu près la même âge dans Catalyst. Elle a beaucoup de personnalité, moi aussi d'ailleurs. Je dirais qu'on est tous les deux assez directs. Je dirais qu'on est tous les deux assez sassy. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Sassy. Comment on dit ça en français? C'est vraiment un rôle de création. Parce qu'avec ce qu'on est en train de faire là, pour justement Tomb Raider Legacy of Atlantis et après Tomb Raider Catalyst, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de unifier tous les Lara qui sont venus avant mon Lara. Et après, on entre dans une ère, merci, de classic lore. C'est ce que je dirais. C'est un nouveau era de création, mais en retenant vraiment l'essence de Tomb Raider et de tout ce qui est venu avant. Elle a confiance dans elle-même. Elle est très intelligente. Elle est très forte. Vraiment, like, dans son dans sa personnalité, autant que physiquement, dans son corps, elle est bien dans sa peau. Et je pense que ça, c'est quelque chose pour les femmes tout autour du monde. On regarde ça et like, ça nous inspire d'être un petit peu plus nous-mêmes, je dirais.
Voilà, Alix Wilton-Regan qui nous fait Lara Croft. Et alors, elle est vraiment Lara Croft. Je vous jure que quand on l'entend parler avec l'image de Lara Croft derrière, ce que je dis, mais en fait, vous êtes blonde, elle est brune, mais on ne voit pas, c'est les mêmes mimiques. Vraiment, c'est elle. Alors, elle a fait la voix en anglais, pas du tout en français, et elle a fait la performance capture. Oui, c'est ce que je lui ai dit. Mais je pense que la doubleuse française ne va pas du tout m'aimer si je dis ça, mais elle aurait pu. Tu as joué avec moi. Qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que toi, c'était ta première sur Tomb Raider.
Sur
le premier, tu n'avais pas fait le premier.
Moi, j'avais joué au premier, mais j'étais très petite et je restais tout le temps à l'intérieur du manoir avec le majordome. Je passais mon temps à l'enfermer, bien sûr, comme tout le monde. Et je ne passais pas les autres niveaux parce que j'étais un peu trop nulle. Et du coup, là, de toute façon, c'est vraiment une réimagination du premier. On n'est même pas sur un remaster ou un remake. C'est vraiment retour à la source et avec un environnement dans le Pérou qui était vraiment sublime. Hein.
C'était sublime. Franchement, la reconstitution du Pérou, là, de la vallée perdue, franchement, c'était... Moi, j'ai pris un vrai plaisir à y jouer. C'est un jeu d'aventure, d'action-aventure, comme on attend avec ses énigmes. Enfin,
On prend le temps de trouver d'analyser le décor, de trouver les ouvertures, le parcours. Moi, j'adore ça dans les Tomb Raider. Beaucoup de puzzles environnementaux dans notre session de jeu et on découvre déjà une Lara vraiment très charismatique, très sassy, comme elle dit dans les interviews.
C'est vraiment ça.
Avec le petit sourire en coin. Elle a l'air très, très cool, cette Lara.
Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé.
Est-ce que justement, parce qu'on parle de beaucoup de remakes depuis tout à l'heure, est-ce que justement, là, c'est un personnage et une franchise qui avait su évoluer avec le temps? Comme là, on revient à un remake du premier épisode, est-ce qu'on ne fait pas un peu machine arrière sur des évolutions du personnage par rapport à la Tomb Raider qu'on a connue plus tard, enfin avec le...
Alors, pour ceux qui ont fait les reboots, ouais, par exemple, je trouve qu'elle est... Enfin, après, on n'a pas vu, on a joué quoi? 1 heure? 45 minutes?
Ouais.
1 heure. Physiquement, tu as un personnage qui est très proche de la Lara des reboots et il y a une espèce de cohérence, et c'est là où elle a raison. Mmh. Ils sont en train d'essayer d'unifier... Crystal Dynamics qui est là derrière et l'autre studio dont j'ai oublié le nom qui travaille avec eux, je m'en excuse, à la demande d'Amazon, ils ont soigné cette cohérence déjà visuelle du personnage. Et c'est vrai que quand on voit les images de Catalyst derrière, c'est crédible que ce soit le même personnage. Et moi, j'ai trouvé là, c'est moins dark que le reboot, la trilogie reboot et Shadow et Rise of the Tomb Raider derrière, mais il y a quelque chose de cohérent et c'est vraiment dans l'esprit du premier, le souvenir que moi j'ai il y a 30 ans en plus beau, évidemment. Mais je trouve ça cohérent. Il n'y a pas de retour en arrière. Et surtout, dans le gameplay, c'est extrêmement agréable à jouer. Nous, ce qu'on a vu... Alors, évidemment, le jeu sort qu'au mois de février. Peut-être qu'il y aura encore du peaufinage sur le reste. Mais en tout cas, là, déjà, on retrouve le T-Rex. Il y a vraiment les codes de Tomb Raider du premier... en version 2026, quoi, 2027. Moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé.
Puis toujours avec ses moves très classe, le ralenti, les doubles pistolets.
Le petit ralenti
le
pour faire les sauts.
Avec beaucoup de classe.
Non, il y a quelque chose de très prometteur. Je voudrais qu'on parle aussi d'un autre jeu et qui va nous servir de transition. C'est le boxon. Donc nous, on a vécu une conférence Xbox très sympa avec Pauline, tout l'environnement, parce qu'on était à l'événement Xbox organisé, on a eu tous nos rendez-vous derrière, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, et là, patatac, on rentre, et 4 jours après, c'est un boxon sans nom chez Xbox. Honnêtement, il y a un jeu qu'on avait beaucoup aimé dans la présentation, parce que moi j'adore la saga Hellblade, c'était Senua, et on apprend hier que donc Ninja Theory ferait partie des studios sous une menace certaine de ce fameux Xbox Reset annoncé la semaine dernière et qu'il fallait donc prendre au pied de la lettre, Kassim. C'est un vrai reset. Qu'est-ce qui se passe chez Xbox? Alors, explique-nous comment, en une semaine, on a switché total.
Alors, il se passe que le Xbox Game Showcase a le malheur d'être en juin, qui est le mois de l'E3, mais en fait, le mois de juin, c'est aussi le dernier mois de l'année fiscale de Microsoft. En fait, il faut le savoir, c'est contrairement à beaucoup d'entreprises qui reset en mars.
Ils finissent,
Eux, ils finissent l'année fiscale fin juin. Et donc, fin juin, chaque année, vous pouvez regarder les actualités, chaque année, depuis longtemps, il y a une grosse réorganisation chez Microsoft qui se traduit par beaucoup de licenciements, des divisions, Windows qui devient copain avec Surface, Office qui passe d'une division à une autre, etc. Et bien chez Xbox, ça fait plusieurs années que c'est l'occasion à chaque fois de retravailler les équipes et ça passe notamment par des fermetures de studios. Et là, on a appris que seraient sur la sellette 3 studios.
On le dit pour le moment, c'est à l'état de rumeur. C'est-à-dire, c'est pas fait. Xbox qui a encore officialisé quoi que ce soit de Microsoft.
C'est à l'état de rumeur, mais
sur le nom des studios, le devenir des studios.
Oui, tout à fait. En fait, les salariés ont commencé déjà à être un peu prévenus du danger potentiel sur leur emploi, et c'est des sujets qui sont sortis dans des médias quand même de référence comme Bloomberg. Donc c'est assez sérieux.
Jason Schreier en général.
Voilà. C'est pas la rumeur, c'est pas juste un compte Twitter premium qui a lancé ça dans le vide, on va dire, c'est un peu sourcé, mais effectivement, c'est pas acté du tout la fermeture de ces studios, puisque visiblement Microsoft, en gros, a 2 trajectoires devant eux, soit fermeture du studio, soit potentiellement revente du studio ou studio qui arriverait à se racheter, à devenir indépendant. C'était ce qui était arrivé, souvenez-vous, à Toys for Bob, qui était un studio qui appartenait à Activision Blizzard, qui s'était fait racheter par Microsoft, qui était le développeur de Crash Bandicoot et de Spyro. Et ils avaient réussi à acheter leur indépendance et devenir indépendants. Et là, on les a vus d'ailleurs développement du nouveau Spyro.
Et c'est drôle parce que nous, on a parlé avec Toys for Bob, justement, quand on a vu Spyro. Et donc, ils nous ont expliqué qu'eux, c'est encore plus malin, ils ont profité du rachat d'Activision par Microsoft pour demander leur liberté. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu, parce que je pense que c'est tout à fait le profil du studio qui peut faire les frais de ça. Eux, ils ont été malins. Et une fois qu'on leur a dit « Ok, c'est bon, vous êtes libres », ils ont dit « Mais on vous propose de vous offrir notre prochain jeu et on voudrait que ce soit un Spyro. » Franchement, les mecs, stratégiquement, ils ont bien joué.
C'est une histoire qui finit bien. D'ailleurs, le trailer de Spyro a extrêmement bien marché pendant le Xbox Game Showcase. Donc,
c'est un soin. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il devrait faire Ninja Theory, dont on a vu quand même le prochain jeu? Ça, c'est quand même extraordinaire.
Du coup, la présence effectivement de Senua à ce Xbox Game Showcase, d'après les dernières informations qu'on a, c'était justement l'idée de regarder ce studio, ce sur quoi ils sont en train de travailler. Si vous êtes investisseur, par exemple un investisseur saoudien au hasard, si vous êtes un studio, un éditeur chinois ou quoi que ce soit, et que vous avez envie d'investir dans un nouveau studio, regardez Ninja Theory, ils sont au travail sur Senua. Ça allait être un retour aux sources de la licence, avec beaucoup plus d'actions. Ça va probablement beaucoup mieux se vendre qu'un Hellblade 2. Donc faites-nous confiance et rachetez notre studio. Visiblement, sa présence dans le Xbox Game Showcase n'était pas faite pour les joueurs, mais plutôt pour les investisseurs potentiels.
C'est bravo. Il y a Compulsion Games aussi, qui est sur la sellette. Alors ça fait un an qu'on en parle quand même, parce que South of Midnight, qui est un jeu que moi j'ai adoré, malgré ses petits défauts, n'a pas marché comme ils espéraient. Et ça fait quand même un an qu'on en parle de ça, de eux, que ça s'afferme.
Tout à fait. En fait, les 3 studios qui sont visés là dans cette rumeur pour l'instant, qui sont Ninja Theory, Compulsion Games et Double Fine, les développeurs notamment de Psychonauts, mais aussi de plus petits projets récemment, notamment Keeper.
Et Kiln, le fameux jeu de poterie.
tous ces studios-là, c'est des studios plutôt spécialistes du jeu artistique, de la nouvelle idée, de l'idée fraîche. Et ils ont d'ailleurs été rachetés par Microsoft pour ça, pour enrichir le Game Pass avec des jeux divers. On leur a donné cette mission-là, on leur a dit: on vous rachète, vous faites ce que vous voulez. Ce n'est pas grave si ça ne se vend pas très bien, puisque le but, c'est que vous ayez ajouté de la diversité à notre catalogue. Et là, derrière, la direction change. Et visiblement, la nouvelle direction est peut-être moins intéressée par la diversité artistique et peut-être plus intéressée par le retour sur investissement immédiat. Et donc, voilà, c'est pour ça que ces 3 studios qui ont un peu tous le même profil et effectivement Nous, entre journalistes, ça fait quand même 2 ans qu'on discutait de se dire qu'on avait du mal à voir un avenir serein pour ces studios-là, qui, en fait, faut aussi se rendre compte, ont été rachetés à un moment où Xbox avait très peu de studios internes.
C'est 2018, cette année charnière où,
2018-2019.
Où Xbox a énormément racheté de studios.
Mais d'abord, 2018-2019, ils rachètent des petits studios, soit des studios qui vont garder pour du régime indé, on va dire, soit des studios qui vont faire monter en niveau pour devenir du AAA comme In Exile ou Obsidian. Et ça, c'est 2018-2019. Et ensuite, Microsoft va complètement changer d'échelle en rachetant et Bethesda et Activision Blizzard. Et on sent que vraiment, à partir du moment où ils ont absorbé Activision Blizzard et où ils ont vu les ventes de Call of Duty, notamment les exécutifs et notamment les directeurs financiers de Microsoft, ils ont vu les rentrées d'argent que pouvait faire Call of Duty, notamment sur du multiplateforme. Là, tout d'un coup, dans cet organigramme géant, quand tu as du Call of Duty, quand tu as du World of Warcraft, quand tu as du Halo, du Gears, Psychonauts et South of Midnight, tu ne comprends plus très bien pourquoi tu finances ces jeux-là.
Ouais.
Et donc, tout simplement, c'est pour ça que le couperet est en train de tomber. Et on craint, derrière ces trois studios-là, qui sont pour l'instant les seuls mis en avant dans les rumeurs, on a aussi un peu des craintes pour d'autres studios, on va dire, de taille moyenne. Je pense à Arkane.
On parlait d'Arkane, qui est sur Blade, pourtant.
Qui est censé
être une grosse production à venir.
Mais on peut penser à tous ces plus petits studios dans la galaxie Xbox qui ne bénéficient pas de l'aura d'une licence comme Warcraft,
ou
comme
Doom,
Call of Duty,
ouais.
Comme Doom,
Ou comme Fallout. C'est vrai qu'il y a tout ça. Alors forcément, Pauline et moi, on est très tristes parce que c'est tout à fait notre cam de jeu.
Carrément.
Plus que les Doom, plus que les
Fallout,
ouais. J'aime beaucoup. Donc
Non, mais je crois qu'elle est terminée l'ère où on aura un petit Pentiment sur le Xbox Game Pass.
Mais justement, qu'est-ce qui quid du Game Pass? Parce que c'était quand même aussi, il y avait aussi ce fameux label ID at Xbox. ID at Xbox, il en prend quand même un coup. On entend nettement moins parler. Je n'ai pas de souvenir là dans cette. Est-ce qu'on a vu dans cette conférence? Des jeux estampillés ID at Xbox ou pas?
Alors,
peut-être ton Bad Magpie.
Le Bad Magpie,
ouais.
C'est un ID Xbox, comme le jeu de secte Join Us.
J'attends Join
voilà.
Us. Si vous avez un jeu à surveiller, c'est un jeu de secte. Vous devez. C'est un peu Cult of the Lamb, mais avec des humains.
C'est un mélange entre Cult of the Lamb et Far Cry 5.
Ouais, exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire que vous devez être un...
En coop, ça va être très drôle.
J'ai tellement hâte de ce jeu, s'il voit le jour, parce qu'on ne sait jamais. Mais oui, Bad Magpie,
oui.
Il fait complètement...
Un petit ovni, finalement.
Finalement, il est un peu ovni,
à
côté de
Gears. Bon. Allez, on en met un petit pour faire plaisir. Bon, c'est littéralement dans la veine d'un Untitled Goose Game. On est une petite pie et on veut être copine avec la lune ou je ne sais plus, un astre. Donc, on va essayer de lui voler, de voler pour elle plein de petits objets.
Brillants.
Ouais. D'objets sympas et de faire plein de bêtises dans l'environnement. C'est très mignon.
Mais ça va plus du tout dans la ligne de ce qu'on est en train de se raconter. Mais est-ce que, Kassim, c'est pas un peu plus que, comment dire, la patte Asha Sharma, qui est finalement de quelque chose d'extrêmement logique de faire du pognon et de rentabiliser la division, parce que même Satya Nadella a dit, maintenant on va arrêter de...
Oui.
Hein, c'est un des 5 piliers, le gaming, mais j'ai l'impression qu'il est un peu en train de passer à l'arrière. Est-ce que c'est pas l'enterrement, ce Xbox Showcase et ce qui suit de l'ère Phil Spencer, réellement. Parce que c'était des jeux Xbox Game Pass. Il y a des choses qui ne verront jamais le jour sur le Game Pass, si on s'en tient à des jeux qui doivent être rentables.
Totalement. Bah
et
là,
quid du Game Pass, d'ailleurs.
Mais non, mais totalement. Elle est en train de... On l'avait un peu vu venir avec toutes les déclarations qu'elle a faites à travers des interviews, où globalement, le mot d'ordre depuis plusieurs mois, c'était... Phil Spencer n'a fait que des bêtises. Moi, je suis là pour sauver Xbox et moi, je vais écouter les joueurs, contrairement à Phil Spencer qui, évidemment, n'écoutait pas du tout les joueurs, comme chacun sait.
Évidemment. Elle ne fait que ça.
Et elle ne fait que
c'est
ça.
C'est peut-être un peu trop, si je peux me permettre. Et on l'a vu au FanFest où on distribue les consoles à la fin à ceux qui sont venus. C'est super. Mais je pense qu'entre les exclusivités sur des... Alors, sauf Clockwork Revolution qui est un peu à part, mais sur Gears, les messages passés, elle écoute quand même les fans hardcore.
Oui.
On sait aussi qu'ils ne sont pas hyper nombreux.
Oui, et qui sont pas forcément la vision de ce qu'il faudrait faire pour une console de jeu à succès non plus. C'est pas forcément toujours, faut pas forcément toujours écouter les plus vocaux, on va dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est en train de détricoter pas mal des acquis, on va dire, de l'ère Phil Spencer. Et on a quand même vraiment l'impression que des studios comme justement Compulsion Games ou Double Fine, c'était plutôt des amis de Phil Spencer et plutôt des jeux qui bottaient justement, en tout cas qui s'intégrait dans la direction artistique qu'avait voulu Phil Spencer pour Xbox, qui était un truc beaucoup plus ouvert à tout type de joueurs. On se souvient aussi du côté cloud gaming, vous allez jouer sur n'importe quelle plateforme, sur n'importe quel appareil, et qui se voulait beaucoup plus inclusif. Et là, on revient à quelque chose de beaucoup plus guerrier, beaucoup plus masculin, beaucoup plus centré autour de la console Xbox aussi. Bon, c'est un vrai retour aussi de la console.
Il y a le projet X longtemps qui arrive
pas
aussi.
Dans la Xbox Game Showcase, on avait vu la console. Donc, c'est aussi un retour plutôt bienvenu de ce côté-là. Même si, derrière les effets un peu, justement, pour montrer que Gears est en exclusivité, on a aussi un Halo en même temps qui, lui, va bien sortir sur PlayStation et qui, d'ailleurs, est présenté comme tournant sur PlayStation 5 Pro. Ce qui est quand même un peu fou.
Alors, ce qui est dingue, c'est que moi, j'ai discuté avec les gens de The Coalition, oui, c'est ça, sur le jeu.
Pour
Gears.
Ah, pour
par
Gears,
exemple.
Oui,
non, parce qu'on parlait de ça aussi.
Oui, tout à fait.
Et qui nous ont dit que le jeu n'a jamais été prévu pour être ailleurs que sur Xbox.
Ouais, alors ça.
Au développement. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'eux, on leur a demandé, ils disent nous, on est Xbox, on n'a pas de souci avec ça. Il n'a jamais été prévu qu'on soit sur une autre console. Alors, est-ce que c'est une autre équipe qui bossait sur un portage PS5 ou pas?
Ce qui est l'idée serait étrange parce que en plus le projet lui-même, déjà on est dans l'année où globalement on est dans l'année où on a un Forza, un Fable, un Halo qui sortent sur PlayStation. Fable, j'ai un doute, je sais plus s'il est exclusif.
Fable, si, il sort partout.
Oui.
Fable.
Et on avait Gears of War qui bouclait la boucle, et en plus c'est un épisode qui est un préquel, donc tu n'as pas besoin d'avoir joué au jeu précédent. Pour en profiter, donc ça il semblait complètement approprié à une sortie sur PlayStation 5.
Surtout qu'ils viennent de faire le remake. Ils viennent de faire le remake du premier qui est sur PlayStation.
Donc ça me paraîtrait totalement très étonnant qu'il ait jamais été réconte un jour à un moment dans
nous,
une réunion d'un portage sur PlayStation 5. Après, ce qui est sûr, c'est que à mon avis, les exclusivités sur lesquelles elle a tranché, donc sont Clockwork et Gears of War. Je pense que c'est des jeux où, si le portage il y a eu en termes de projet, il n'était pas assez avancé, donc il valait mieux justement couper et passer directement sur l'exclusivité. Là où Halo, il est prêt à sortir, donc on va, de toute façon on le sort, quoi.
Ouais. C'est quoi la suite des aventures pour Xbox? Vous voyez ça comment là? Est-ce qu'elle met un coup de pression pour que les studios gagnent leur indépendance? Alors on sait par exemple que pour Compulsion Games, le Québec souvent aide ses studios, donc peut financer une partie du sauvetage. Ninja Theory, ce sont des Anglais, donc à voir comment ça se goupillera, mais je pense que Ninja Theory, c'est plus simple. Double Fine est un cas à part, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas le fermer contractuellement. Je pense que oui, Tim Schafer, on ne lui fait pas comme ça. Donc, à mon avis, il va reprendre ses billes et essayer de survivre tout seul. C'est quoi l'avenir? Pauline, toi, tu vois plus de jeux indés. Plus de jeux indés chez Xbox.
Très pessimiste. Non, mais Compulsion, ça me fait mal. Mais je pense que ça va être un peu plus dur pour eux quand même.
Pour les deux autres.
Ils ont trois jeux dans le catalogue, dont un, We Happy Few. Moi, j'ai adoré l'univers. Mais
moi, j'ai adoré Contraste, le premier.
Contraste était très chouette. We Happy Few était techniquement assez compliqué déjà. Et il n'y avait aucun succès commercial dans le catalogue. Je leur souhaite quand même de rebondir. Ninja Theory, j'espère qu'ils vont trouver acheteur aussi, parce que ce Senua, ça a quand même créé un engouement palpable dans la salle. Donc,
ouais,
ce serait dommage de le tuer dans l'œuf. Moi, déjà, l'annulation de Perfect Dark l'an dernier, ça m'a fait mal.
Perfect Dark, j'avais eu des échos internes chez Xbox en disant que le projet était vraiment à un niveau, après 7 ans de développement, à un niveau catastrophique. C'est-à-dire qu'ils l'ont refait X fois, ils n'avaient rien du tout. Ils n'avaient pas de fond de jeu, enfin, ils étaient incapables de montrer quelque chose de jouable. C'est même un projet qui, à mon avis, sans la clémence et bienveillance de Phil Spencer de temps en temps, et puis un peu d'entourloupe dans les studios, parce qu'on sait que ça arrive très souvent chez tout le monde, à mon avis, aurait dû être éteint beaucoup plus tôt, alors qu'il y avait vraiment un projet de fou là-dessus.
Ouais, donc, en tout cas, c'est trois studios auxquels je tiens énormément, donc j'espère qu'il y aura une issue favorable.
Mais bon, moi je pense que Ninja Theory, c'est quand même des rois de la motion capture aussi.
Oui.
Et que mine de rien, ils ont besoin du studio. Je l'ai visité moi à Cambridge, il est énorme et je vois pas comment Microsoft, qu'à certains studios qui ont besoin de motion capture, peut s'en passer. Kassim, fin du monde ou pas?
Ben, je vois un Xbox en tout cas qui va plutôt penser un peu plus court terme, on va dire, et qui va du coup se concentrer vraiment sur quelques grandes franchises.
Ouais.
On va retourner au Xbox qu'on critiquait un petit peu à la fin de la Xbox One, qui ne savait faire que du Gears, du Halo, etc. Là, on va quand même un petit peu au-delà de ça. On va avoir du Elder Scrolls, du Fallout, du Call of Duty et quelques autres franchises, notamment dans les
périodes
Blizzard. Mais sorti de ces 5, 6, 7 franchises, On n'aura plus vraiment de nouveautés.
De prise de risque.
Ils vont jouer à fond, à mon avis, la carte du multiplateforme culturel, même adaptation en série télé, adaptation en film, etc. Pour vraiment jouer cette carte-là à fond. J'oublie pas non plus Minecraft, évidemment. Et puis, au-delà de ça, la question de l'avenir de Xbox, c'est-à-dire le développement de la nouvelle console de jeu. Est-ce que Microsoft sera encore le fabricant de sa propre console de jeu ? Sous l'ère Phil Spencer, la promesse était forte de la prochaine Xbox, ce sera 100% Microsoft. Avec Asha Sharma, moi, j'ai un peu plus de doutes. Je me demande si la prochaine Xbox ne sera pas développée par Lenovo, Asus ou HP.
Parce que de toute façon, elle aura tous les stores. Le but du jeu, c'est qu'elle ait tous les stores autres.
Tout à fait.
Pas très grave d'avoir moins de studios.
Parce que, en tout cas, le lancement d'une console de jeu, c'est un investissement énorme pour des constructeurs. Et on sent un Microsoft qui n'a plus vraiment envie là, de sortir le chéquier, qui a plutôt envie de récupérer des billes. Et donc, à court terme, la façon la plus simple de récupérer des billes, c'est de sous-traiter la fabrication de ta console, de faire des gros jeux sur les franchises dont tu sais qu'elles vont se vendre, et puis essayer de faire grimper les bénéfices. Et le Game Pass, j'avoue que moi, j'ai du mal à y voir un grand avenir pour cet abonnement. Et je vois bien quand même un recul des promesses du Game Pass, par exemple le Day One, etc.
Ah ben ça, c'est sûr. Le prix a baissé pour le Ultimate, pour faire venir du monde, mais je pense que je crois plus en un Game Pass famille, comme on dit, avec une offre réduite.
Et je pense qu'ils vont le retransformer en quelque chose de plus proche de ce qu'est le PlayStation Plus Extra aujourd'hui, c'est-à-dire un abonnement qui te permet de jouer en ligne et qui te permet d'avoir accès à un back catalogue un peu généreux, mais plus vraiment de nouveautés et plus vraiment la ligne édito. On a parlé beaucoup d'ID avec Xbox, il y a aussi la branche publishing de Xbox qui, pareil, ne donne plus vraiment de signe de vie. Il y a peut-être le jeu encore de Hideo Kojima qui va survivre.
C'est vrai qu'on l'attend, le Audi.
Audi.
C'est vrai qu'on n'a pas eu de signe de vie là.
On verra bien.
Ouais, mais elle ne va pas aller le voir. Je ne pense pas que Asha, malgré toute sa volonté, aille voir Kojima. Lui, t'es gentil avec ton jeu vieux, mais j'en veux pas. Donc, voilà. C'était Gears of Asha X-Day, on va dire ça comme ça. Mais oui, bah, on verra dans les prochains. Bah, à mon avis, les prochaines semaines, ça va très vite. On va très, très vite savoir. On va se prendre 2 minutes, on est complètement à bourre, pour faire les à quoi on joue, parce qu'on a 2 jeux très très sympas et ils vont avoir 1 minute chacun pour nous les pitcher. Allez, à quoi on joue ? Bon, honneur aux dames. Ah. Et à la première de Pauline.
J'espère que je ne suis pas chronométrée là, tu m'as dit 1 minute.
Je vais mettre le buzzer.
Non, mais purée.
Bon, voilà, pour nous parler de Cloudpunk,
oui,
dont je n'avais jamais entendu parler.
Eh bien, écoute, c'est normal parce que c'est un jeu cyberpunk qui est sorti en 2020 et qui a été un peu mis dans l'ombre par un autre jeu cyberpunk qui s'appelle Cyberpunk 2077. Mais c'est un jeu que j'ai choisi parce que j'étais en complet jet lag. Donc, si vous êtes dans mon cas, vous pouvez y aller en fermant les yeux. C'est un jeu où vous allez pouvoir vous laisser porter par l'univers cyberpunk qui est donc en voxel art. Vous savez, si vous connaissez un peu Minecraft, c'est à peu près le même genre de design. Et donc, vous allez vous balader en tant que livreuse de colis dans une entreprise semi-légale. Et le but, c'est de ne pas trop demander ce qu'il y a dans ces colis. Vous pouvez le faire, mais à vos risques et périls. Et c'est surtout un jeu narratif d'exploration dans lequel vous allez vous laisser porter par une bande-son un peu synthwave qu'on retrouve un peu dans les Blade Runner. D'ailleurs, c'est l'une des inspirations principales. Et vous avez toute cette ville qui est un peu gargantuesque. Il y a vraiment une impression de grandeur quand vous vous baladez. Surtout si vous le faites sur PC avec un écran ultra-wide. C'est très sympa. Et c'est vraiment un jeu atmosphérique à faire un dimanche quand on n'a pas envie d'activer nos neurones.
J'adore la DA. Ouais, moi, la je DA suis est dès que c'est un peu cyber comme ça.
Et puis, il y a des niveaux sur le sol. C'est-à-dire que vous faites vos livraisons de colis, vous marchez, il y a vraiment...
C'est en tu ne fais pas que voler.
Il y a une superbe verticalité dans le jeu.
Ah.
Alors, il y a un côté répétitif parce que vous êtes livreur, donc il y a forcément les quêtes FedEx qui rentrent dans le lot. Mais il faut l'accepter. Il y a beaucoup de bonnes choses à prendre dans ce jeu.
Bon, ben voilà, c'est Cloudpunk. Moi, ça me tente bien. Changement de DA total et d'environnement. On avait le même reco cette semaine avec Kassim, qui est Crushed in Time.
Tout à fait. Crushed in Time, qui est le nouveau jeu des développeurs de There is No Game Wrong Dimension.
Incroyable.
Alors, on a l'impression, comme ça, avec tous ces noms anglais, que c'est un studio étranger. Mais non, c'est un studio bien français.
Ce sont des Français.
C'est des développeurs bien français et qui nous sortent, du coup, un nouveau jeu, un point and click, hein, tout simplement. Donc, un jeu d'énigmes et de puzzles.
C'est pas un point. C'est un étire and click.
Étire and click, tout à fait. puisque donc c'est complètement un jeu qui est dans la veine de la grande époque des Lucas, des jeux LucasArts. Et notamment de Day of Tentacle, dont je suis un très grand fan. Donc là, vraiment, je me suis senti quand même à la maison. Et qui réinvente effectivement le, jeu, le genre du point and click ou du puzzle à travers une seule interaction. Il n'y a qu'une seule façon d'interagir avec ce jeu, c'est de prendre sa souris, enfin de prendre le curseur et de tirer. Et avec ça, on va pouvoir faire plein de choses. On va pouvoir pousser des personnages, on va pouvoir pousser des objets du décor. On va pouvoir interagir, même leur mettre des claques de temps en temps. Et tout ça pour faire avancer l'environnement et donc résoudre certaines énigmes. Et surtout, au-delà de ça et de ce petit jeu, du coup, qui est très accessible, hein, je trouve.
Il y a quand même 2-3 énigmes qui sont costauds.
Oui, mais disons que ça ne demande pas des réflexes particuliers. Ou voilà. Donc, c'est très... Il faut effectivement avoir l'intellect. Moi, je me sens très... On peut facilement se sentir bête devant ce jeu.
Ouais. C'est vous, cas, vous êtes entre Sherlock et Sherlock Holmes et Watson, et le docteur Watson, voilà, qui doivent enquêter.
Mais une version un peu réécrite de Sherlock et de Watson. Justement, je vais parler rapidement de l'écriture du jeu. Un jeu qui, comme le précédent There is no game, va jouer à fond la carte de l'humour et la carte du méta, puisque dans ce jeu, on va voyager dans le temps. Mais la façon dont le jeu va nous faire voyager dans le temps, c'est qu'on va voyager dans les versions du jeu. Du premier prototype jusqu'au présent, jusqu'au remaster dans l'avenir. Et on va pouvoir voyager entre les époques des versions du jeu pour essayer de corriger un bug qui, visiblement, handicape le lancement du jeu dans l'univers. Y a vraiment beaucoup d'humour. Je n'ai pas encore tout à fait terminé, mais je trouve le jeu très drôle et surtout très accessible. Et j'ai hâte qu'il sorte. Il est sorti un peu sur toutes les plateformes, mais il devrait...
Il n'est pas que sur PC, là ? Il va arriver sur toutes les plateformes.
Et il va sortir notamment, il me semble, sur plateforme mobile.
Il est fait pour point and click.
Et voilà, il est fait pour la tablette et j'ai hâte de le voir arriver sur toutes les plateformes et je pense que les gens devraient foncer sur ce jeu.
Voilà, et j'ai une reco pour vous. Moi, je suis très manette et moins clavier-souris et j'ai dû retourner au clavier-souris parce que jouer avec la manette, c'est une vraie galère sur ce jeu. Ah ouais, les contrôles pour étirer avec une manette, c'est un enfer. Et le point and click, je l'ai fait sur une Rogue. Et en effet, en point and click, c'est royal. On est venu à bout de cette émission, très très longue, parce qu'on avait beaucoup de choses à vous raconter. Et puis l'actualité nous a rattrapés aussi. Pauline, c'était un plaisir de t'avoir.
Partagé.
Voilà. On peut te retrouver en vidéo et à l'écrit sur JV.com.
Exactement.
Avec tous tes petits camarades qu'on embrasse. Repose-toi bien.
Merci. Toi aussi, Mélinda.
On va essayer, ça va être bio. Cassim, on te retrouve sur Fandroid aussi.
Tout à fait. Oui, pour traiter toute l'actualité de Xbox, justement, et de voir un peu l'avenir de ces consoles de jeux.
Voilà, la boule de cristal sur Fandroid de Cassim. Et puis nous, écoutez, vous pouvez retrouver l'émission en multidiffusion sur la chaîne Tech & Co., en replay sur la chaîne YouTube BFM Tech, sur la plateforme RMC BFM Play, et évidemment sur le site BFM Tech, et en podcast partout. Voilà, on espère vous avoir donné quelques idées de jeux, en tout cas ceux qu'il faudra attendre dans les prochains mois. Et on se dit à très vite. On a encore des émissions, c'est pas encore les vacances, donc rendez-vous la semaine prochaine. Jouez bien!